profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelle et fiction imaginaire, enquête sur d'étranges affaires. Bonsoir, bonsoir. Encore une enquête mystérieuse avec un dossier ufologique classique. L'affaire Humo. Conspiration cosmique ou mensonge élaboré? Eh bien, nous verrons. Et d'abord, un petit peu de musique avec Gigi Kay, Clyde.
Sit on the porch without no shoes, picking the bass and singing the blues. Millery loves company. His old dog sings harmony. Tambourine tied to his tail. You can hear him moan, you can hear him wail. She got a dollar. Down the road you can hear her holler. I get up, Clyde, we got something to do. That old dog can sing the blues. He don't flinch. Clyde, he don't move an inch. Just sit on the porch without no shoes, picking his bass, singing the blues.
Dossier Humo. Conspiration cosmique ou mensonge? Un grand classique du dossier OVNI. Alors l'affaire Humo défraie la chronique des OVNI depuis près de 50 ans. C'est une histoire qui s'étale sur le temps. C'est une affaire à tiroir où l'on croise des extraterrestres en villégiature sur Terre, des ufologues conspirationnistes, des ésotéristes en contact avec une civilisation stellaire, un atterrissage de soucoupes volantes en plein jour devant plusieurs témoins, un ovni photographié de façon très nette en plan rapproché, des milliers de documents, ça c'est très important, technico-philosophico-scientifiques... et expédié des quatre coins du monde par les habitants d'une hypothétique planète et plusieurs services secrets. Alors, le vrai côtoie le faux, à tout bout de champ, information, désinformation. Alors, canular, pas canular, ça plutôt l'ambiance d'un polar, mais c'est un dossier emblématique, en fait, de l'ufologie mondiale. Allons-y sur cette histoire. Humo ou Humo est le nom d'une planète donc hypothétique, comme je l'ai dit, qui se trouverait à environ 14,4 années-lumière de la Terre. C'est en tout cas ce qu'affirment divers courriers dactylographiés reçus à partir du milieu des années 60, en grande majorité en Espagne, mais également dans d'autres pays, dont la France. Ces lettres auraient été écrites par des membres d'une civilisation extraterrestre, les Humites, se présentant comme les habitants de cette planète. Certains considèrent cette affaire comme un canular élaboré, d'autres y voient un fantastique contact extraterrestre. Alors que croire? Les premières lettres recensées sont celles reçues en 1966 par Fernando Sesma, animateur d'une association espagnole ésotérique, les Amis des Visiteurs de l'Espace, qui réunissait ses membres régulièrement dans un bar dénommé La Balena Alegre, la baleine joyeuse, à Madrid. De nombreux autres destinataires en recevront par la suite dans plusieurs pays, dont l'auteur du présent article que je suis en train de vous lire, Monsieur Olchen. Jusqu'en 2009 en France, où le chercheur Jean-Pierre Petit affirmait avoir décelé les signes d'une intelligence supérieure extraterrestre dans certains écrits humites qu'il dit avoir reçus. Sur son site Humophile, il décrypte une cinquantaine de lettres humites, affirmant aussi que les sujets scientifiques abordés dans les lettres humites sont totalement novateurs et l'ont directement inspiré dans ses recherches en cosmologie et en magnéto-hydrodynamique. Ça, c'est très intéressant, parce que c'était quand même des données en avance à partir de textes appartenant aux années 50. L'origine de ces documents fait cependant débat parmi, bien sûr, les ufologues, certains y voyant des pièces significativement différentes des autres documents dits humites. Comme je vous l'ai dit en introduction, dans cette histoire, ça prêche le faux et le vrai. Actuellement, ce qu'on peut dire, il y a plus de 200 lettres représentant environ 1300 pages de rapports qui ont été répertoriées. Et le groupe HUMO, Science, les classifie dans leur grande majorité échelonnée entre 1964 et 2009. Cependant, si on en croit une lettre de 1988, il devrait y avoir quelque 3850 à 168 000 pages en circulation. La dernière lettre répertoriée, considérée comme provenant de la source, semble être la lettre référencée NR21 du 12 mars 2009 par Humoscience. Cette lettre traite des anthropoïdes de la planète Humo et apporte des précisions sur leur système planétaire et leur calendrier. Les premières lettres humites recensées sont celles reçues en 1966, pour un total connu d'environ 265 pages dactylographiées reçues sur l'année 1966, par plusieurs destinataires et en particulier M. Fernando Sesma. L'existence de cette civilisation extraterrestre a été prise au sérieux par certains, mais l'hypothèse du canular a ensuite été renforcée par José Luis Jordán Peña, se présentant comme l'auteur des premiers courriers humites. Cette confession tardive n'a cependant pas convaincu tout le monde, et nous y reviendrons plus loin. Des lettres racontent l'arrivée sur Terre entre Digne-les-Bains et la Javie, dans le sud de la France, le 28 mars 1950, d'un petit groupe de scientifiques humites chargés d'étudier notre biosphère, l'atmosphère terrestre ainsi que notre culture à la suite de la découverte accidentelle de notre planète par la réception sur Humo, je cite les textes, dès 1948, d'un message télégraphique émis entre le 4 et le 8 février 1934 en Morse, lors d'essais scientifiques par un navire norvégien au large de Terre-Neuve. Je vous laisse apprécier. Ils expliquent, dans ce courrier, que leur civilisation est plus ancienne que la nôtre, qu'ils possèdent une technologie plus avancée, et que leur morale leur interdit de perturber notre évolution sociale. Les auteurs racontent leur étonnement devant notre société multiculturelle, les différents systèmes politiques, la multitude des langues, et surtout le désordre social qui règne au sein de notre planète. De nombreuses lettres décrivent les conditions de vie sur leur planète avec de nombreuses illustrations. Ils nomment la société réseau social et expliquent l'importance de ce réseau où chaque homme est un nœud et où chaque relation correspond à un arc. Ils présentent ainsi leur vie quotidienne, leur habitat, l'utilisation des odeurs, leur réseau de ravitaillement, leur cuisine, le travail, la famille, le jeu, leur méthode de déplacement, la sexualité, l'éducation, la psychologie, le mariage, les arts, le concept de Dieu, leur histoire, les différentes étapes de gouvernement qu'ils ont connues, et la découverte d'autres planètes habitées. De nombreuses lettres décrivent leur système politique actuel, qu'ils considèrent comme socialiste, mais pas un socialisme terrien. Le nôtre serait juste l'ancêtre archaïque de leur socialisme humite. Une partie des lettres relève de la philosophie et de la métaphysique. Les thèmes abordés comprennent la morale, le libre arbitre de l'être humain, la condition humaine, la finalité de l'être, l'âme et l'inconscient collectif. De nombreuses lettres décrivent également leur point de vue sur notre société et traitent de quelques problèmes qu'ils identifient comme l'avortement, l'oppression de la femme par l'homme ou encore des lacunes de nos systèmes éducatifs et politiques. Le concept de Dieu est souvent présent et plusieurs lettres y sont entièrement consacrées. Leur spiritualité aurait des similitudes avec le christianisme. Les lettres font référence à un messie nommé Humo-Roi, dont la vie est extrêmement similaire à celle de Jésus de Nazareth. De nombreux sujets scientifiques sont abordés en détail, notamment le concept de l'espace, avec des considérations sur les plis de l'espace, le cosmos décadimensionnel, l'anticosmos, le cosmos gemellaire, la théorie du champ unifié, la biologie et la théorie d'une évolution organisée, les bases biogénétiques du cosmos et le concept du temps. Parmi les affirmations sur des sujets scientifiques formulés au long des différents rapports, on trouve en particulier, par exemple, la présence, d'après eux, de 86 paires d'atomes de krypton en extrémité des chaînes d'ADN de tous les êtres vivants, donc chez nous. La découverte sur Mars de végétaux unis et pluricellulaires. L'existence du graviton, la non-existence des trous noirs qui seraient en fait des tunnels hyperspatiaux, et la lutte n'est pas limitative. D'autres sujets scientifiques plus isolés sont aussi abordés comme la technologie spatiale, l'électrophotographie, les moteurs, l'informatique et la métrologie, ainsi que les altimètres et gravimètres de leur planète. En fait, c'est tout un système social qui est décrit, qui ferait d'ailleurs des envieux auprès des auteurs de science-fiction. C'est même drôlement bien ficelé. Et d'une grande hauteur scientifique, si on peut dire. Donc, si l'affaire Humo est un canular, alors il s'apparenterait à ce que l'on appelle la paraphrénie, qui est un état délirant. Ainsi, le paraphrène agit et pense comme si le délire n'avait pas envahi tous les domaines de sa vie psychique. Il existe avec une bonne adaptation au réel. Les paraphrènes peuvent imaginer, par exemple, toute une cosmogonie ou un système social sans paraître souffrant pour autant. De nombreuses hypothèses sur l'identité des auteurs ont été émises. Les humites eux-mêmes, les services d'espionnage, une ou plusieurs sectes politiques. José Luis Jordán Peña. Il aurait initié le phénomène avant d'être imité par la suite par d'autres. Nous reviendrons sur son cas, il est l'une des pièces du puzzle. Les sceptiques considèrent que des lettres tapées à la machine envoyées par la poste ne peuvent être en aucun cas considérées comme des preuves en faveur de l'hypothèse extraterrestre, ce qui est d'ailleurs répété de nombreuses fois dans différentes lettres. Le consensus parmi les auteurs sceptiques est que les lettres soient des contrefaçons plus ou moins élaborées. Ils émettent l'hypothèse que Joyce Luis Jordán Peña est à l'origine des premières lettres et que les faussaires ultérieurs se sont basés sur celles-ci comme modèle afin d'étendre le mythe, la civilisation humite étant alors la résultante d'une œuvre collective. Une dépêche d'agence de 1956 que nous avons retrouvée, FIF International Future, basée à Madrid, met le doigt sur la genèse de l'affaire Tyran. La Société des Amis des Visiteurs de l'Espace prépare à Madrid l'avènement de l'âge cosmique. Ce document constitue l'une des pièces essentielles du dossier car il date et donne le contexte du début à un moment où les ufologues n'ont pas encore enquêté sur le dossier. Le correspondant de presse est Martin Bernwelt et l'année 1956 est véritablement le moment où l'affaire Humeau pose ses repères. Le texte est explicite, je cite. Madrid, voulez-vous être l'un des précurseurs de l'âge cosmique dont l'aurore est en train de poindre? Rendez-vous à Madrid, vous y trouverez tous les vendredis soirs à la brasserie de style allemand Gambrinus dans la rue d'Alcala. Les membres de la Société des Amis des Visiteurs de l'Espace et ils sont prêts à vous recevoir dans leur sein et à vous mettre à même d'attendre avec eux la venue des habitants des autres mondes, point de départ de l'ère cosmique. Un fonctionnaire des télégraphes espagnols, fort versé en sciences occultes, Fernando Sesma, une dactylographe allemande Hildegard Menzel, un pilote Gins Avelan, un prêtre Don Severino Machado, un infirmier psychiatrique Alberto San Martín, un agent d'assurance Joaquín Martínez et un archéologue Bernardo Valerio constituent le comité directeur de cette association, officiellement déclarée auprès des autorités de la Direction Générale des Securitates. C'est Fernando Sesma, auteur d'un ouvrage sur les soucoupes volantes, qui en est le président et l'animateur incontesté. On note la présence d'autres personnalités intéressantes autour de Sesma. Villagrasa, qui est l'ingénieur dans le bâtiment, l'officier de police Garrido, une demoiselle Aroro, qui travaille à l'ambassade US, d'où des supposées connexions avec la CIA. En 1956, Sesma est connu pour être en contact avec les extraterrestres de la planète Oku, autour d'Alpha du Centaure, enfin d'après ses dires, bien sûr. C'est une planète où vit une civilisation pacifique. Il affirme avoir été là, lors de l'atterrissage d'un de leurs vaisseaux. Ensuite, un certain Saliano, à la baleine joyeuse, lui aurait montré des lettres écrites par les extraterrestres d'Oku, et tout le groupe s'émerveille du système philosophique des habitants d'Oku. Les lettres humides plus tard diront que Saliano n'était qu'un personnage fictif inventé par Sesma. Deux thèses s'opposent pour dire que Saliano n'a jamais existé, laissant ainsi à Sesma le champ plus libre pour faire passer ses informations, prétendant donc s'appuyer sur une source autre que lui. Les réunions du professeur Sesma vont bon train, sorte de cercle de poètes disparus. On y parle gnosticisme, philosophie, mysticisme, parapsychologie, sciences extraterrestres et politique. Sesma publie des textes ésotériques et diffuse les propos de George Adamski, qu'il considère comme un authentique contacté des extraterrestres, dont l'affaire s'est passée en 1952 en Californie, s'étant fait connaître par son livre « Les soucoupes volantes ont atterri ». À un moment donné, Sesma, pour se donner sans doute plus d'importance au sein de son groupe, prétendra être un spécialiste en cryptologie et en cartographie. Visiblement, il ne possède aucune notion de ces disciplines. Le cadre est donc posé. La dépêche se poursuit ainsi, je cite. Parmi les précurseurs de l'âge cosmique, la Société des Amis des Visiteurs de l'Espace entoure le prophète Élie, dont le char de feu revêt à ses yeux une signification évidente. Description d'un vaisseau spatial. Et le naturaliste latin Pline le Jeune, premier savant qui atteste l'existence des fameuses soucoupes, selon le groupe Sesma, d'un respect particulier. L'infirmier Alberto San Martín, membre à vie du comité directeur de Sesma, est considéré comme le médium choisi par les mystérieux équipages des soucoupes volantes pour transmettre aux habitants de la Terre leur premier message interplanétaire. La dépêche FIF reprend. Il y a un an et demi, Alberto San Martín eut une étrange aventure. Il ne donne que peu de détails à ce sujet, mais on ne peut douter de sa véracité car il en reste une preuve tangible. Le message gravé sur une pierre qui lui parvient en main propre une nuit à un lieu écarté de la cité universitaire de Madrid. Cette pierre, sur la composition chimique et les propriétés de laquelle les laboratoires et les centres scientifiques de la capitale espagnole n'ont pas osé se prononcer, porte 9 signes gravés sur l'une de ses faces, signes par lesquels les visiteurs de l'espace estiment. Les amis de Madrid ont tenté de nous faire parvenir un message. Mais, comme pour la pierre de Rosette, l'interprétation des signes reste difficile. Après plus d'un an d'études et de discussions, les membres de la société ne sont pas encore arrivés à un accord global. Le président Sesma présente la dernière solution envisagée, en termes de traduction de la pierre. Il dit ceci. « Nous venons des hautes sphères célestes vers votre monde divisé. Bientôt l'arc-en-ciel s'unira à la droite terrestre. Mais pour éviter le choc, il y aura une période de contact préliminaire. L'union sera heureuse. Vous vous appuierez sur nous et votre choix sera moins lourd à porter. Vous surmonterez vos mauvais penchants quand nous nous abriterons tous sous un même toit. Et vous connaîtrez enfin la paix. » Évidemment, devant une telle révélation, on en reste un petit peu pantois. Le texte est obscur. Et contient-il une clé ou bien s'agit-il d'une supercherie ou encore d'un mauvais décodage? Le texte de l'agence de presse madrilène poursuit. Entre des chopes de bière allemande et la fumée épaisse des cigarettes, Don Severino, un prêtre de Valladolid, défend une thèse beaucoup plus rationnelle que celle de Fernando Sesma. D'après lui, les visiteurs de l'espace nous ont indiqué la clé de leur prochaine apparition sur la pierre extraterrestre. Et les signes qui figurent ne sont rien d'autre que la représentation schématisée des diverses positions de Saturne par rapport à la Terre. Grâce à son interprétation de ces signes, Don Severino a déjà pu prédire, avec une grande avance, l'apparition de certains phénomènes étranges, tels que, par exemple, le passage d'une soucoupe volante au-dessus de l'aéroport d'Orly. Or, le 17 février 1956, vers 22h50, des opérateurs radars enregistrent sur leur écran un signe anormal. On apprend qu'un ovni survole l'île de France, qu'il disparaît, qu'il réapparaît, qu'il s'immobilise et repart à la vitesse fantastique de 2600 km par heure jusqu'à 4600 km par heure. Vers 2h du matin, l'objet disparaît. Un chasseur a tout de même été envoyé sur les lieux. Et il croit pouvoir prévoir avec certitude toutes les apparitions à venir de soucoupes volantes sur n'importe quel point du globe. Le curé de Valladolid tend à penser que les équipages des vaisseaux de l'espace sont recrutés parmi les habitants de Saturne ou de l'un de ses satellites. Le président Sesma, au contraire, est d'avis qu'il s'agisse de Martiens ou de Vénusiens. Ils nous surveillent et ils nous protègent de leur présence silencieuse. L'association madrilène accepte que plusieurs points de vue se partagent en son sein sur l'origine des soucoupes volantes. La seule condition requise, croire en la pluralité dans tout l'univers. Sesma affirme sa croyance au fait que les soucoupes volantes sont piloté par des êtres d'une intelligence supérieure aux humains. Donc on voit que le terreau était propice dès les années 50. Sesma et son groupe constituent une cible parfaite pour l'arrivée des lettres humites dans la période de 1965. Et quelle que soit l'origine des missives, Sesma constitue un correspondant entre guillemets, ouvert en termes de renseignements. Il est une cible dormante prête à être activée. Mais activée par qui? Voilà, reste la question de fond. Et on va essayer d'y répondre un petit peu dans la deuxième partie. Alors on va faire une petite pause musicale avec T-Rex et on se revoit avec plaisir sur la suite de cette fameuse histoire.
Ah, 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 ah.
Vous êtes bien sur CFM Radio 90.2, à l'écoute de l'émission Plus profonde des ondes d'aujourd'hui, un dossier passionnant sur l'affaire Humit. Ethnie censée être extraterrestre, mais peut-être c'est un fameux canular. Avançons donc dans notre prospection. Le 16 janvier 1966, Fernando Sesma Manzano reçoit une missive, visiblement la première, par la poste. Monsieur, nous sommes conscients de l'importance de ce que nous allons vous dire. Nous sommes sûrs qu'une affirmation de cette nature n'est d'habitude formulée que par un farceur. C'est une drôle d'introduction. À cette époque, Sesma va publier les premières lettres reçues. Moi, le confident des hommes de l'espace. Il y raconte ses conversations télépathiques ou téléphoniques avec les extraterrestres sans semblait éprouver le moindre doute. L'affaire Humo est lancée. C'est ainsi qu'en 1967, il révèle encore dans Humo, une autre planète habitée, qu'il a reçu de mystérieuses lettres rédigées par des êtres originaires de la planète Humo. Cette planète, une fois et demie plus grosse que la Terre, tourne en 180 jours de 30h55 minutes autour de Wolf 424 alias Luma. Sesma possède une abondante documentation. Elle décrit la civilisation Humit, son langage, son système métrique. Le 30 mai 1967, Sesma reçoit une lettre annonçant trois arrivées de vaisseaux Humit entre le 30 mai et le 3 juin. L'un d'eux devait se poser aux environs de Madrid. Les amis des visiteurs de l'espace guettent, bien sûr. mais ne voit rien. Le 2 juin, les journaux Informaciones et Pueblo annoncent l'observation d'une soucoupe volante à San José de Valderas, en banlieue de Madrid. Non seulement il y avait des centaines de témoins, au final on peut parler d'une dizaine seulement, mais on l'avait photographié. Or, l'année précédente, le 6 février 1966, une soucoupe identique avait atterri à Aluche, près de Madrid, en laissant d'importantes traces au sol. Et bien sûr, le témoin principal est José Luis Jordán Peña. Rafael Farriols, un chef d'entreprise de Barcelone, apprend l'information par la radio. Il se rend aussitôt sur les lieux et y trouve Enrique Villagrasa, qui, faisant déjà partie des auditeurs de SESMA, connaissait l'annonce de l'arrivée des humides. Antonio Ribera, l'un des fondateurs du Centro de Estudios Interplanetarios, groupe ufologique espagnol, apprend l'affaire par un de ses amis de Madrid qui lui fait parvenir l'article d'Informaciones. Il va à Madrid, où il rencontre le témoin d'Aluche et collabore avec Rafael Farriols pour enquêter. Ses investigations lui valurent la confiance des humides, après la publication de son livre « Un caso perfecto ». Et il reçoit 10 lettres dans l'année qui suit. Quant à Enrique Villagrasa, son assiduité à la Société des Amis des Visiteurs de l'Espace et son titre d'ingénieur lui avait déjà valu d'être parmi les heureux destinataires des documents les plus étranges sur le monde du mythe. En particulier, cinq lettres où les humites racontent comment ils ont découvert l'existence de notre civilisation, exploré notre système solaire et atterri pour la première fois sur Terre. On comprend que ces lettres mystérieuses suscite l'intérêt des ufologues. Des copies circulent. Ignacio Darnaud, ufologue de Séville, s'en fait l'archiviste. Antonio Ribera continue d'étudier le dossier et publie en 1979 Humo, le langage extraterrestre. Par deux fois, l'existence de l'implantation humite fut révélée à la presse. Une première fois en août 1968, par Fernando Sesma. Des êtres d'une autre planète vivent sur la Terre avec de faux papiers. France au soir, 8 août 1968. Puis ce fut le père Enrique López Guerrero qui précisa l'affaire le mois suivant. Les humites vivent près de Madrid dans un refuge souterrain. Bien sûr, il reçut une lettre. Nous ne désirons pas vous alarmer en exposant les petits troubles que vos articles nous ont causés à la suite des premières informations parues dans l'édition d'ABC diffusée à Séville, ni sur les perturbations que la diffusion exagérée de votre témoignage peut encore provoquer. Quant à l'observation de San José de Valderas, qui constitue la partie visible de l'affaire Humo, elle est sans doute la plus déconcertante. Un des courriers humides annonce qu'un vaisseau spatial sera visible en plein jour le 1er juin 1967 près de Madrid. Le groupe n'y prête pas plus attention, mais la surprise est totale quand la presse madrilène publie le 2 juin des photos et un reportage mentionnant un atterrissage de soucoupe volante possédant le sigle humide visible au-dessus du château de San José de Valderas, dans la banlieue de Madrid, la veille, c'est-à-dire la date indiquée dans la lettre. Dès le lendemain, un autre article relaie des déclarations de Sesma sur l'origine de la soucoupe. Il y a des traces au sol et plusieurs témoins. L'objet observé à San José a atterri à Santa Monica, près du restaurant, la Ponderosa. On signale la présence d'étranges tubes métalliques, dont au moins un contient des lamelles d'une fine matière plastique portant le sceau du mot. La première vérification est celle des nombreux témoins mentionnés et des photographes. On découvre cependant que leur existence ne tient qu'à la parole de Peña et Antonio Pardo, le journaliste photographe introuvable dont le style rappelle celui de Peña, qui possède un laboratoire en photo et un appareil du même type. Donc, hormis Peña, aucun témoin direct n'est retrouvé. Toutes les personnes interrogées renvoient vers d'autres témoins supposés ou encore le journal du lendemain sans avoir rien vu elles-mêmes. En 1977, Claude Poher, premier directeur du GEPAN au Centre spatial de Toulouse, montre qu'un traitement approprié des photos prises à Saint-José met en évidence un fil de suspension de la soucoupe. C'est une maquette. L'authenticité des photos a cependant continué à être défendue. Il ne faut cependant pas confondre ce affirmant que les négatifs n'ont pas été altérés, comme la Guardia Civile espagnole après avoir examiné ces négatifs originaux, de ceux contestant l'existence d'un fil l'assimilant à une rayure sur le négatif. Les humites eux-mêmes ne chercheront pourtant pas à nier le faux, comme l'indique une de leurs lettres bien plus tard. Je cite. Des années plus tôt, mes frères ont diffusé conjointement à des arguments en faveur de la thèse de l'identité humaine de fausses preuves qui pouvaient servir de couverture face à un degré élevé de crédulité de la part du réseau social sur la Terre. En 1966, Peña explique les détails de sa mystification à Manuel Carbalal, expliquant que pendant que son ami Vicente Ortuño tenait le support, il avait pris des photos en utilisant volontairement un film rapide et l'avait développé pour obtenir une forte granulation afin de faire disparaître le fil de suspension. Comme toutes les photos n'étaient pas réussies, on voyait parfois les mains de son compère, il dut couper le film pour sélectionner les meilleurs clichés. Quant au mystérieux tube, c'était des étuis de thermomètre dans lesquels il avait placé des rubans de Tedlar, un fluorure de polyvinyle fabriqué par Dupont de Nemours et que lui avait procuré un ingénieur de la NASA, se trouvant alors en Espagne. Oh, c'était bien ficelé, hein. L'observation de la luce est aussi un trucage. L'OVNI est un jeu de lumière, les traces au sol fabriquées avec un gabarit marqué d'une croix enfoncée dans la terre. Mais où les choses se corsent, c'est qu'il existe un autre cas d'observation d'OVNI possédant un marquage du sigle mythe sur sa structure. L'affaire s'est passée à Sainte-Foy-Lyon en 1952, près de Lyon. Largement enquêté par le groupe OVNI Investigation. Il y a plusieurs objets, leur évolution dans le ciel rappelle celle de Saint-José de Valderas. Alors que croire? Le 14 juin 1952, deux témoins voient en plein jour une soucoupe volante. Son diamètre est estimé à 70 mètres. L'apparition aérienne se déroule à quelques kilomètres du centre-ville de Lyon. Et il y a des témoins. Elles observent, car ce sont des femmes, ces témoins, l'OVNI depuis le boulevard de Narcelles à Sainte-Foy-lès-Lyon, à proximité du château de Bramafan. Laissons la parole aux protagonistes qui vécurent cette journée mémorable. L'immense engin était là. Il se déplaçait à une altitude d'environ 300 mètres. Il ressemblait à deux assiettes renversées, l'une contre l'autre. Le temps d'aller chercher des jumelles, il disparaît. Les secondes passent et voilà l'engin qui revient depuis Bron, à l'est de Lyon. Il est accompagné d'un second engin identique venant, lui, de Montluel, département de l'Ain. Il est environ 14h30 à cet instant. Les deux appareils se livrent ensuite à une sorte de balai aérien. Se succèdent des renversements, des chutes en feuilles mortes, des virages à angle droit. Le tout dans un parfait silence. À un moment, une sorte de rayon de lumière semble projeté vers nous. Nous sommes prises de panique et rentrons dans la villa. La première partie du récit s'arrête là. Après quelques minutes, et sa bonne Madame C, elle garde l'anonymat, celle qui a rendu ce témoignage, et sa bonne ressorte. Et pof, à nouveau, elle voit quelque chose qu'elle n'identifie toujours pas. Un seul objet se montre, il paraît revenir de la Mulatière, commune distante de quelques kilomètres de Lyon. Arrivé au-dessus du château de Bramafan, il se retourne sur lui-même et descend en direction du sol lentement. Et il va se poser dans l'herbe. La soucoupe volante, car cela en est vraiment une au sens littéral du terme, un aspect métallique paraissant neuve. En vol, une sorte de dôme est visible en partie supérieure de la structure. Lors de la descente, cette structure arrondie s'est retrouvée dessous du fait du retournement complet de l'objet. On peut faire la comparaison avec une sorte de train d'atterrissage. Les témoins ont parlé de cheminée, car une substance filandreuse s'en est échappée durant la descente. Des ouvertures arrondies sont nettement visibles sur le pourtour médian de l'OVNI, sans quoi aucun autre détail net ne frappe les deux femmes. Leur observation est très précise, et elle dure plusieurs minutes. Deux voitures freinent brutalement sur le boulevard. Les conducteurs ont vu aussi l'étrange engin au sol. Ce double arrêt marque la fin de ce bien curieux atterrissage. En effet, la soucoupe s'élève à ce moment-là pour basculer à nouveau, comme pour se remettre dans sa position initiale. Elle disparaît en quelques secondes dans le ciel. Une odeur soufrée persistera quelques instants dans l'herbe, mais aucune trace ne sera trouvée au sol près du château. Un signe étrange était visible sur l'objet comme la lettre H barrée. La ressemblance avec la soucoupe de Madrid est absolument frappante. Et l'histoire est relatée dans la presse lyonnaise dès mai 1953 avec ses dessins originaux. L'auteur pense à l'époque à une technologie issue des travaux acharnés des savants allemands qui voulaient de toute leur puissance créatrice la victoire du Grand Reich. Il aurait pu s'agir d'un engin soviétique construit derrière le rideau de fer. Allusion est faite ici aux armes secrètes d'Hitler, les fameux V1, V2 et légendaires soucoupes volantes V7 de la Luftwaffe. Les services de renseignement espagnols, le CESID, ne restent pas indifférents à l'affaire Humo. Ils infiltrèrent à l'époque le groupe de SESMA et un dossier Humo baptisé du nom de code Apocalypse fut ouvert. La crainte était que la famille royale espagnole ne soit atteinte par cette affaire. En France, un agent de service de renseignement officiel du gouvernement français s'est penché à titre personnel sur l'affaire Humo. Son avis est clair. Pour lui, il s'agit d'un canular. J'étais à cette époque en opération en Espagne. Le cri de guerre utilisé par les étudiants de Madrid, faculté des sciences, était proche phonétiquement de Humoa, que l'on trouve cité dans les lettres humites. Il semble que les milieux religieux ont été les premiers touchés. Le but du mot, une farce de potache, destinée à diffuser des idées politiques opposées au pouvoir conservateur espagnol. Les connaissances humites sont purement terrestres, et les scientifiques universitaires espagnols étaient capables de fabriquer le contenu des lettres humites. L'Espagne était réputée à l'époque pour sa culture scientifique. La CIA n'était pas impliquée dans d'hypothétiques tests sur des réactions de la population face à une hypothétique rencontre du troisième type. Les textes humides utilisent un langage de la bourgeoisie madrilène. Le financement de l'opération Humo était limité. Des lettres envoyées par la poste. Et c'est tout. Autre élément poussant à voir une manipulation politique, c'est que le système social du mot ressemble au système communiste soviétique. Et les humites avouent leur sympathie pour des personnalités marxistes ou dont les idées furent récupérées par la propagande soviétique. On retrouve le signe Humo à l'occasion d'un atterrissage douteux d'OVNI à Voronezh, en URSS. Octobre 1989, couvert par les agences TASS et Novosti, la théorie scientifique à la base de la cosmogonie humite, univers gemellaire, trouve son origine en Union soviétique. Et les courriers humites concernant la course aux armements véhiculaient des thèmes classiques de la propagande soviétique. Alors, manipulation par des services russes ou par des étudiants espagnols marxistes? Selon l'agent des services spéciaux français, on penche vers la seconde hypothèse. Un mémoire d'études de l'université Joseph Fourier à Grenoble de mai 2006 est titré « Le monde des humites ». Et les étudiants concluent « On ne peut pas dire que les humites ne sont pas réelles, mais on peut en déduire que cette histoire ne sera jamais terminée. Et si les humites passent de mode, eh bien une autre histoire pourrait venir la remplacer. Et avec un peu de chance, avec de vrais extraterrestres. » Alors, La boucle est bouclée, le mystère reste entier. Dans tous les cas, on sent que le groupe de Sesma était une cible de choix, déjà préparée dès la fin des années 50 pour le démarrage de l'opération Humo au milieu des années 60. En 1992, José Luis Jordan Peña, alors que Sesma est mort en 1982, a revendiqué devant les policiers les détails de la fraude qu'il aurait menée à bien pendant près de 30 ans. Technicien supérieur en télécommunications, il est d'abord professeur de sciences dans un collège technique, physique et électronique. Il poursuit parallèlement une intense activité anti-secte. C'est là que j'ai connu un agent de la brigade sociale, que je rencontrais à la foi catholique, entité de la Compagnie de Jésus dirigée par le père Sanchez de León. Nous nous consacrions à dénoncer aux autorités franquistes les protestants, témoins de Jéhovah, francs-maçons, membres de Rotary Club, José Luis Jordan Peña, en marge du mot, étaient déjà versés dans leur enseignement, servant d'honorable correspondant auprès des autorités, au regard de groupes jugés subversifs sous le régime espagnol. Humo évoque la fumée. J'ai choisi au hasard l'étoile Wolf 424. Puisque mon objectif réel n'était pas de développer un monde extraplanétaire crédible, je me souviens que je rédigeais les rapports les samedis et dimanches après-midi. Et je profitais de mes voyages en France, en Angleterre, etc., ou ceux d'amis pour envoyer depuis là-bas des lettres. Pour l'observation de San José de Valderas, il précise « Nous avons utilisé une maquette accrochée à un fil de nylon très mince. Je me rappelle que j'ai pris une vitesse très rapide, à un millième, pour que la soucoupe et le fond de la photo sortent plus ou moins à la même focalisation et que la soucoupe paraisse plus grande. Le plus incroyable, c'est que j'en suis arrivé à interviewer des gens qui disaient avoir vu la soucoupe, mais qui n'étaient pas payés par moi. J'ai commencé à m'indigner en voyant que la secte Edelweiss marquait au fer rouge des enfants innocents avec mon symbole. Et j'ai ensuite reçu une invitation anonyme de Cuba pour assister à je ne sais quelle réunion humide chez Farriols, dont j'ai décidé de cesser l'expérience qui avait duré 25 années. Je me repens d'avoir créé une expérience que je considère immorale qui s'est retournée contre moi. » Fin de citation. Ceci indique que d'autres ont suivi les traces de Jordan Peña, car les lettres humides continuent d'arriver, c'est pas fini. Les dernières datent de 2009. Jordan Peña, de toute façon, n'a pas tout dit. Il n'a pas pu matériellement agir seul, d'autres l'ont aidé durant sa mystification, face au nombre de courriers envoyés. 1988 marquerait la fin de sa mystification au moment où il est victime d'un accident vasculaire cérébral. Notre homme avoue donc aussi la mystification de San José de Valderas ainsi que le pseudo-atterrissage d'Aluche en février 1966, où il est l'auteur des fausses traces au sol de l'OVNI. On a le sentiment que des vocations spontanées sont ensuite nées, faisant perdurer le mythe au-delà des initiateurs. L'histoire étant trop belle pour s'arrêter de manière aussi triviale, bien sûr. Conclusion, Humo reste un cas d'école hors norme, car on a utilisé le domaine ufologique pour transmettre des idées politiques dans le but de désinformer, d'influencer et de mobiliser du monde. On est directement dans le contexte d'une opération spéciale digne des services secrets. Ceci démontre que le sujet OVNI est suffisamment pris au sérieux pour servir de vecteur à une manipulation savamment dosée. Conclusion, ben oui, c'était plutôt un canular. Cela ne veut pas dire pour autant que des faits tout à fait réels et plus étranges existent. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Waiting for, come figure Louis, picks up Betty on the alley. He's got.
job with me on it. That boyfriend beat her up, and now he won't let her in. So she's walking by this joint in a black and blue dress, and she looks at Louis Wells that he uses. Don't tell me, never guess. It's more trouble than it's worth. Somebody there that you might meet me tomorrow.